Avec le Rougon-Macquart, Zola entreprend de décrire l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. C'est le sous-titre de la série. Pour Zola, le roman est un formidable outil d'expérimentation. C'est cette idée qui fonde le naturalisme en littérature. Montrer l'homme sous les influences de l'hérédité et des circonstances ambiantes, vivant dans le milieu social qu'il modifie tous les jours et au sein duquel il éprouve à son tour une transformation continue. Mais Zola va plus loin, cette expérimentation va permettre ensuite d'améliorer la société, exactement comme un médecin qui étudie une maladie pour mieux la guérir. Voilà où se trouve l'utilité pratique et la haute morale de nos œuvres naturalistes. Quand on possédera les lois, il n'y aura plus qu'à agir sur les individus et sur les milieux, si l'on veut arriver au meilleur état social. Du coup, derrière cette posture d'observateur, Zola reste un écrivain engagé. Quand il observe la société du Second Empire, il n'hésite pas à dénoncer les excès du régime, par les traits de la satire et de la caricature. Le 2 décembre 1851, Napoléon III fait un coup d'état, pile le jour anniversaire du couronnement de Napoléon Ier. C'est un événement incroyable, toute la classe politique est renouvelée. Les opposants sont proscrits. L'armée occupe les rues. Le Second Empire succède à la Deuxième République. Une des grandes ambitions de Napoléon III, c'est la rénovation de Paris. Il charge le baron Haussmann de remplacer les petites rues insalubres par de grands boulevards luxueux. C'est aussi un bon moyen d'empêcher la construction de barricades. Dans la curée, Zola va montrer de l'intérieur comment les affairistes profitent des travaux de Paris pour amasser des fortunes immenses. Il décrit le luxe à outrance de ces nouvelles fortunes, mais aussi leur goût pour toutes ces petites intrigues et manipulations qui servent des intérêts personnels. En même temps, Zola est journaliste pour des journaux républicains, La Tribune, Le Rappel, La Cloche, où il prépare déjà ses images choc. Ah, quel curé que le Second Empire! Dès le lendemain du coup d'État, l'orchestre a battu les premières mesures de la valse, qui est vite devenue un galop diabolique. Ils ont mis les mains au plat, mangeant goulûment, s'arrachant les morceaux de la bouche. La curée, c'est un terme de vénerie. À la fin de la chasse à cour, c'est le moment où les abats sont distribués aux chiens. Zola reprend cette image à un poète connu à l'époque, Auguste Barbier, qui critiquait alors la récupération orléaniste de la Révolution de juillet 1830. Quand le sanglier tombe et roule sur la reine, allons, allons, les chiens sont rois. Le cadavre est à nous, payons-nous notre peine, nos coups de dents et nos abois. Allons, nous n'avons plus de valets qui nous foillent et qui se pendent à notre cou. Du sang chaud, de la chair, allons, faisons ripaille et gorgeons-nous tout notre sou. Le roman d'Émile Zola est divisé en 7 chapitres, le dernier étant une sorte d'épilogue. J'ai donc réalisé 7 vidéos pour respecter la structure du roman. J'ai aussi ajouté des sous-parties numérotées pour vous aider à vous repérer. Mais attention, ce découpage n'a pas été voulu par l'auteur. Dès 1852, le baron Haussmann avait chargé Jean-Charles Adolphe Alphand de réaménager le bois de Boulogne pour rehausser le prestige de la capitale. C'est le lieu à la mode où se rencontrent les personnalités influentes du Second Empire. Les deux personnages principaux du roman, René et son beau-fils Maxime, se promènent en calèche. Maxime est le fils du mari de René d'un premier mariage. Tiens, Lord Origny, là-bas, dans ce coupé. René clignait des yeux, son front pur traversé d'une grande ride, sa bouche avançant comme celle des enfants boudeurs. Quelques détails révélateurs pour le portrait de René. Une bouche boudeuse qui annonce des désirs inassouvis, la ride sur le front qui présage le détraquement du cerveau, sa myopie qui l'apparente aux héros tragiques comme Œdipe par exemple, aveugle à leur destin. Elle prit son binocle et le tenant à la main, elle examina la grosse Lord Origny tout à son aise, d'un air parfaitement calme. Tu la trouves jolie ? Vous en faisiez l'éloge l'autre jour lors de la vente de ces diamants. Les lunettes de René évoquent aussi les jumelles qu'on utilise au théâtre pour regarder les actrices. C'est une société d'apparence. D'ailleurs, les femmes qu'on appelle par leur prénom, ce sont soit des actrices, soit des femmes entretenues. Pour le nom, Zola s'inspire de Blanche d'Antigny, qui sera l'un de ses modèles pour Nana. Bien sûr, il y a une volonté satirique. Zola veut montrer une société immorale et dépravée qui va influencer René. À propos, n'as-tu pas vu la rivière et les grettes que ton père m'a achetées à cette vente ? Certes, il fait bien les choses. Il trouve moyen de payer les dettes de l'or et de donner des diamants à sa femme. Maxime la taquine et lui demande si elle n'est pas jalouse. Oh, je voudrais bien. Mais non, je ne suis pas jalouse. Le cher homme, je le laisse bien libre. Vois-tu, je m'ennuie. Je m'ennuie à mourir. En passant, René salue deux jeunes femmes, la marquise d'Espanay et Madame Hafner, toutes les deux mariées à des hommes politiques proches de l'empereur. Zola nous laisse deviner l'homosexualité de ces personnages. René, qui avait connu en pension les deux inséparables, comme on les nommait d'un air fin, les appelait Adeline et Suzanne, de leur petit nom. Un jeune cavalier, Monsieur de Mussy, salue aussi René, mais elle l'ignore et il a l'air désespéré. Maxime s'étonne de la lassitude de sa belle-mère. « Tu habites un hôtel splendide, tes caprices font loi. Partout aux Tuileries, chez les ministres, chez les simples millionnaires, il n'y a pas de plaisir où tu n'aies mis les deux pieds. Et tu t'ennuies? Que rêves-tu donc ?»« Quoi ? Autre chose, parbleu, je veux autre chose, si je savais. » Le dialogue de René et Maxime est entrecoupé par des descriptions qui éclairent et prolongent la conversation des personnages. Ce sont autant d'effets, d'échos et de miroirs. Elle contemplait l'étrange tableau qui s'effaçait derrière elle. Le lac, d'une propreté de cristal, reflétait les verdures noires, pareilles à des franges de rideaux savamment drapées au bord de l'horizon. Dans ses descriptions, Zola s'inspire souvent des peintres impressionnistes. Les jeux de lumière rendent compte de la subjectivité de celui qui y regarde. Ce coin de nature, ce décor qui semblait fraîchement peint, baignait dans une ombre légère qui achevait de donner au lointain un air d'adorable fausseté. Le bois de Boulogne ressemble à un décor de théâtre avec des rideaux, la peinture fraîche. Zola reprend le thème baroque du Theatrum Mundi. Le monde est un théâtre où chacun joue un rôle, où les apparences cachent des désirs plus profonds. René éprouva une singulière sensation de désirs inavouables à voir cette nature si artistement mondaine et dont la grande nuit frissonnante faisait une de ces clairières idéales où les anciens dieux cachaient leurs adultères et leurs incestes divins. Vrai, il y a des jours où je suis tellement lasse de vivre ma vie de femme riche, adorée, saluée, que je voudrais être une Lord Origny. Ça doit être moins fade, il faudrait autre chose, une jouissance rare, inconnue. Elle ne clignait plus les paupières, la ride de son front se creusait. Sa lèvre d'enfant boudeur s'avançait en quête de ces jouissances qu'elle souhaitait sans pouvoir les nommer. Maxime préfère en rire. Tiens, tu as raison, c'est crevant. Va, je ne m'amuse guère plus que toi, j'ai souvent aussi rêvé autre chose. Moi, je voudrais être aimé par une religieuse, hein, ce serait drôle. Tu n'as jamais fait le rêve, toi, d'aimer un homme auquel tu ne pourrais penser sans connaître un crime ? La calèche quitte le bois de Boulogne et se rend au grand hôtel particulier qu'ils habitent à côté du parc Monceau, qui a d'ailleurs lui aussi été réaménagé par Jean-Charles Adolphe Alphand. Chez Zola, la description a toujours un rôle important, c'est une étape clé de l'écriture naturaliste. Nous ne décrivons plus pour décrire, par un caprice et un plaisir de rhétoricien. Nous estimons que l'homme ne peut être séparé de son milieu, qu'il est complété par son vêtement, par sa maison, par sa ville, par sa province. Et en effet, l'hôtel du Parc Monceau en dit beaucoup sur le propriétaire. L'hôtel disparaissait sous les sculptures. Autour des fenêtres, il y avait des balcons pareils à des corbeilles de verdure que soutenaient de grandes femmes nues. À la voir du parc, cette grande bâtisse avait l'importance riche et sotte d'une parvenue, avec son lourd chapeau d'ardoise. C'était un des échantillons les plus caractéristiques du style Napoléon III, ce bâtard opulent de tous les styles. L'immeuble est trop décoré, il n'y a pas de cohérence artistique. La façade mélange le luxe et la richesse, la luxure des femmes nues, la luxuriance de la végétation. Pour Zola, la société du Second Empire est pauvre culturellement, car elle a remplacé l'art par l'opulence. Luxe, luxure, luxuriance ont la même étymologie. En latin, lux, la lumière, la gloire, l'ornement, donne le verbe lucere, luxi, reluire, briller, qui devient luxus, le faste, l'excès, la débauche. Un immeuble haussmannien a des caractéristiques précises, une hauteur maximum de 20 mètres pour 6 étages, le rez-de-chaussée pour les commerces, sauf dans les quartiers privilégiés. Un deuxième étage, noble, avec un balcon filant pour passer d'une pièce à l'autre. Ensuite, on baisse dans l'échelle sociale à chaque étage, escalier à monter, plafond plus bas, fenêtres moins décorées. On trouve aussi des balcons au cinquième étage, mais avec des séparations, car les appartements sont plus petits. Enfin, les domestiques habitent des chambres de service sous les toits. En se quittant, René demande à Maxime d'être à l'heure pour le dîner, car ils reçoivent Monsieur de Mareuil et sa fille. Ton père désire que tu sois très galant avec Louise. En voilà une corvée. Je veux bien l'épouser, mais faire sa cour, c'est trop bête. Ah, que tu serais gentil, René, si tu me délivrais de Louise ce soir. Dans les escaliers, René croise le valet de chambre, Baptiste. Cet homme était superbe, tout de noir habillé, la face blanche, l'air grave et digne d'un magistrat. Une fois dans ses appartements, elle se fait habiller par sa femme de chambre, Céleste. Puis, seule, elle songe au passé. Elle se revit enfant dans cet hôtel silencieux de l'île Saint-Louis, où depuis deux siècles les béraux du Châtel mettaient leur gravité noire de magistrat. Puis, elle songea à ce veuf qui s'était vendu pour l'épouser, et à ce nom de Saccard, dont les deux syllabes sèches avaient sonné à ses oreilles avec la brutalité de deux râteaux ramassant de l'or. Dans cette vie à outrance, sa pauvre tête se détraquait un peu plus tous les jours. Zola révèle ici le mécanisme du personnage de René. J'ai voulu montrer le détraquement nerveux d'une femme dont un milieu de luxe et de honte décuple les appétits natifs. En bas des escaliers, René voit son mari accueillir les invités. Aristide Saccard, debout auprès de la porte, tout en pérorant avec sa verve de méridionale, saluait les personnes qui arrivaient. De toute sa personne, ce qu'on voyait le mieux, c'était la tache rouge du ruban de la Légion d'honneur qu'il portait très large. Quand René entra, il eut un murmure d'admiration. Elle était vraiment divine, décolletée jusqu'à la pointe des seins. La jeune femme semblait sortir toute nue de sa gaine de satin, pareille à ces nymphes dont le buste se dégage des chaînes sacrées. Elle avait au cou une rivière à pendeloques, d'une eau admirable, et sur le front, une aigrette constellée de diamants. Renée est déjà comparée à une nymphe. Elle deviendra par la suite la nymphe Écho, dont le destin est tragique. Le décolleté prépare déjà la mise à nu progressive du personnage. Les bijoux vont aussi avoir leur importance symbolique. La blonde Madame Hafner est là avec son mari, le député, et son amie, la marquise d'Espanay. Elle admire les bijoux de Renée. C'est la rivière et l'aigrette, n'est-ce pas ? Toutes les femmes se répandirent en éloges, ou perçaient le désir de sentir sur leur peau nue un de ces bijoux que tout Paris avait vu aux épaules d'une impure illustre. Quand Baptiste annonce que la table est mise, chacun se déplace vers la salle à manger. Une vaste pièce carrée, dont les boiseries étaient ornées de minces filets d'or. Quatre grands panneaux, ménagés de façon à recevoir des peintures de nature morte, étaient restés vides, le propriétaire de l'hôtel ayant sans doute reculé devant une dépense purement artistique. Zola se moque du désintérêt pour l'art de cette société qui s'émerveille devant les bijoux d'une courtisane. Le placement des convives à table révèle bien les enjeux de ce dîner. Maxime à côté de Louise de Mareuil pour favoriser leur mariage arrangé. Monsieur de Mareuil, le père de Louise, souhaite devenir député. Il sera donc redevable à Saccard de l'avoir placé en face du préfet, Monsieur Huppel de Lanoux. Sidonie Rougon, la sœur de Saccard, se trouve entre Mignon et Charrier, deux entrepreneurs, anciens maçons, enrichis. Elle va les amadouer pour faciliter les affaires de son frère. Seule déception de Saccard, son frère, le ministre Eugène Rougon, n'a pas pu venir. Il a envoyé son jeune secrétaire, Monsieur de Saffré, à la place. Ce dernier sera accaparé toute la soirée par Madame Michelin, la femme du chef du bureau de la voirie qui, lui, se contente de sourire en laissant sa femme travailler à son avancement. René avait à sa droite le baron Gouraud, à sa gauche Monsieur Toutain Laroche, ancien fabricant de bougies, conseiller municipal, membre du conseil de surveillance de la Société Générale des Ports du Maroc, directeur du Crédit Viticole, homme considérable que Saccard, placé en face, appelait d'une voix flatteuse tantôt « mon cher collègue » et tantôt « notre grand administrateur ». La transformation de Paris sera la gloire du règne. Le peuple est ingrat, il devrait baiser les pieds de l'empereur. Je le disais ce matin au conseil, messieurs, laissons dire ces braillards de l'opposition. Bouleverser Paris, c'est le fertiliser. La plaisanterie est lourde, et Zola laisse entendre que fertiliser Paris, c'est certainement plutôt la violer. Mais Saccard complimente la finesse du mot d'esprit.
Vous avez fait des miracles. Paris est devenue la capitale du monde.
Et n'oubliez pas le côté artistique, les nouvelles voies sont majestueuses.
Quant à la dépense, nos enfants la paieront et rien ne sera plus juste.
Et comme en disant cela, il regardait Monsieur de Saffré, le jeune secrétaire, pour paraître au courant de ce qu'on disait, répéta.
Rien ne sera plus juste, en effet.
Monsieur de Michelin souriait. C'était sa façon de prendre part à une conversation, ce qu'il jugeait sans doute plus favorable à son avancement. Un autre personnage était également resté muet, le baron Gouraud, qui mâchait lentement comme un bœuf aux paupières lourdes.
Oh, vous avez bien raison, nous vivons dans un bon temps. J'en connais qui ont joliment arrondi leur fortune. Quand on gagne de l'argent, tout est beau.
Chaque personnage est conforme à sa caricature. Toutain Laroche représente le discours impérial. Huppel de Lanoux se pique d'être un artiste, mais ce n'est qu'un administrateur. Monsieur de Saffré ne réalise pas que c'est sa génération qui est visée par le député Hafner. Et Monsieur Mignon, l'ancien maçon, révèle naïvement le jeu des intérêts personnels. La conversation s'arrête sur un silence gêné. Pour cette discussion, Zola prend le contre-pied d'un article de Jules Ferry, « Les contes fantastiques d'Haussmann », qui révèle son véritable point de vue.
Nous pleurons l'ancien Paris artiste, où il existait des groupes, des voisinages, des quartiers, des traditions. Nous accusons l'administration préfectorale d'obéir à l'idée fixe et à l'esprit de système. D'avoir immolé l'avenir à ses caprices, d'avoir englouti le patrimoine des générations futures, de nous mener sur la pente des catastrophes.
Par grâce, mon ami, ayez un peu pitié de nous, laissez là votre vilaine politique.
Alors Monsieur Huppel de Lanoux dit que ces dames avaient raison, et il entama le récit d'une histoire scabreuse qui s'était passée dans son chef-lieu. Les dames rirent beaucoup de certains détails. Le préfet comptait avec des inflexions de voix qui donnaient un sens très polisson aux termes les plus innocents. Quand il ne parle pas d'argent, il parle de luxure. Dans l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire, la curée est la note de l'or et de la chair. La description de la table après le repas évoque déjà le déchaînement des appétits qui va se dérouler dans Paris. Un vent chaud semblait avoir soufflé sur la table, émietté le pain, rompu la belle symétrie du service, et les convives s'oubliaient là, en face des débris du dessert. Après le repas, M. de Mussy entraîne Maxime sur la terrasse et il se plaint longuement de René.
« Elle me traite comme si tout était fini entre nous. Quel crime ai-je pu commettre ?»
Il insiste tellement que Maxime lui promet d'aller lui parler.
« C'est convenu, je lui dirai un mot. Mais je ne promets rien, elle va m'envoyer coucher, c'est sûr. »
Maxime trouve René dans son petit salon. Il parvient à l'emmener à l'écart, mais elle semble irritée.
« J'ai bien fait de ne pas te délivrer de Louise. Vous allez vite tous les deux. »
« Est-ce que tu crois que je lui ai pincé les genoux sous la table ? Que diable, on sait se conduire avec une fiancée ?»
Il aborde alors le sujet de Monsieur de Mussy.
« Il avait l'air vraiment désespéré. Vrai, je te trouve cruel. À ta place, je lui enverrai au moins une bonne parole. »
René le regardait d'un air indéfinissable.
« Va dire à Monsieur de Mussy qu'il m'embête. »
Maxime n'est pas pressé de revenir auprès de Monsieur de Mussy.
« Ah, voilà mon petit mari. Dites-moi dans quel fauteuil mon père a pu s'endormir. Il se sera déjà cru à la chambre. »
Les jeunes gens retrouvèrent leurs grands éclats de rire du dîner, se croyant seuls, sans même apercevoir René, debout au milieu de la serre, à demi caché, qui les regardait de loin. Dans ce passage, le lecteur peut déjà percevoir le sentiment de jalousie de René, qui annonce l'inceste à venir. La description de la serre est un moment clé dans le roman et un véritable morceau de bravoure où Zola, encore jeune écrivain, veut montrer son talent. Il a étudié la botanique, visité le jardin des plantes et en a tiré un symbolisme qui révèle les désirs encore inconscients de René. Les larges fleurs du grand hibiscus de la Chine semblaient des bouches sensuelles de femmes, les lèvres rouges de quelques messalines géantes, des baisers qui toujours renaissaient avec leur sourire avide et saignant. Derrière elle, un grand sphinx de marbre noir avait un sourire de chat discret et cruel, comme s'il avait lu le désir fuyant, l'autre chose vainement cherchée par René. Le sphinx renvoie à l'énigme qu'Œdipe doit résoudre pour sauver Thèbes et qui révélera son inceste. Zola parsème son roman d'indices qui sont autant de marques d'ironie tragique, l'annonce d'un destin fatal. Messaline, c'est la femme de l'empereur Claude, mère de Britannicus. Elle a une réputation de débauchée, participant à des orgies. Ainsi, Zola met en parallèle la décadence de la noblesse romaine et celle de la bourgeoisie du Second Empire. L'arbuste derrière lequel elle se cachait était une plante maudite, un tanguin de Madagascar, dont les moindres nervures distillent un lait empoisonné. Et, comme Louise et Maxime riaient plus haut, René prit entre ses lèvres un rameau du tanguin et mordit une des feuilles amères. La serre concentre les effets symboliques recherchés par Zola. Ce milieu empoisonné transforme René, révèle ses désirs sous-jacents et l'amènera fatalement à commettre l'inceste.